Bonjour à tous et merci d'être venus à cette conférence, présentation sur la question et les enjeux managériaux pour la silver economy. Donc très rapidement, je vais me présenter et puis je laisserai la parole à ma voisine qui se présentera. Donc moi, je suis Christian Moinard, je suis enseignant-chercheur dans une école de management qui s'appelle Audencia, tel que c'est marqué en bas à gauche de ce slide. Et je suis aussi directeur d'un executive MBA qui se spécialise notamment, enfin qui propose une spécialisation sur la question de la silver economy. C'est donc plutôt à ce titre-là que je vais intervenir.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Caroline Mouminou, je suis responsable marketing pour le pôle assistance à l'autonomie dans le groupe Legrand. Donc, vous verrez, j'illustrerai les propos de Monsieur Moinard, donc Legrand, et je présenterai nos perspectives et notre stratégie dans la silver economy et l'assistance à l'autonomie et l'implication qu'a le groupe Legrand dans ce domaine.
Très bien. Alors donc top départ pour cette conférence. Donc on va parler évidemment silver economy, puis on va parler management et on va essayer de croiser les deux. Donc la silver economy, c'est une évidence de le dire que c'est une opportunité pour les entreprises. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi c'est aussi une opportunité pour une école de management comme Audencia, pourquoi c'est aussi une opportunité pour des questions de formation. Alors, pour vous comme pour nous, il nous est apparu quand même une évidence, c'est d'abord que la silver economy, c'est le marché de demain, c'est une tendance, on le verra, mais c'est un marché qu'on ne peut pas adresser, auquel on ne peut pas accéder à toutes les conditions. Il y a des conditions de structuration de produits, de structuration d'offres, de structuration de services, mais il y a aussi des conditions managériales qui nous sont semblées relativement importantes. Et c'est autour de cette réflexion-là qu'on a souhaité développer un programme spécifique pour des cadres de haut niveau, on va dire, autour de ce marché et de cette question. Alors, peut-être avant de démarrer, rappelons quelques évidences sur la silver economy. Comme je le disais, c'est un marché qui est en pleine croissance. Regardons simplement ce petit graphique qui nous montre comment... donc là, les bulles oranges, en fait, c'est la position de la France au regard de deux axes. D'un côté, les revenus moyens des personnes et de l'autre côté, l'évolution de l'âge. Et on s'aperçoit que pour la France, depuis 1800, le point de départ, jusqu'à 2013, évidemment... Le déplacement s'est fait vers le haut à droite, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un vieillissement de la population très très clair, un vieillissement moyen, ou plutôt l'espérance de vie a largement évolué, et aussi les revenus en moyenne ont largement évolué. Ce qui est aussi tout à fait amusant quand on regarde ce graphique-là, c'est que cette réalité-là, elle existe pour tous les pays. Cette réalité, elle est vraie au niveau mondial. Il y a eu depuis, on va dire, alors 1800, c'est déjà un peu plus ancien, mais alors quand on voit l'accélération de la courbe à partir du milieu du XXe siècle, cette accélération et ce déplacement vers le haut ou à droite est quelque chose qui existe pour tous les pays et toutes les zones du monde. La problématique est que, bien évidemment, cette réalité-là, si elle est tendancielle, générale et globale, elle n'est pas identique et la réalité, la problématique économique, la problématique sociologique, la problématique médicale n'est pas la même pour tous les pays et toutes les réalités dans le monde. Et donc c'est autour de ces questions-là qu'on a souhaité réfléchir et de proposer un certain nombre de solutions, un certain nombre de réflexions autour de ce thème-là. Deuxième problématique qui nous est apparue évidente, c'est que la silver economy, c'est une économie qui, comme tous les environnements économiques et tous les marchés, peut-être adressé de manière spécifique, mais qui répond aussi à des enjeux sociaux très forts et qu'il est extrêmement difficile de séparer les enjeux économiques, marchés, et aussi les enjeux sociaux de cette réalité-là, de cette problématique. Et puis, troisième point aussi qui nous a paru extrêmement important pour pouvoir aborder cette question de la silver economy, c'est qu'on est sur un marché certain, un marché du futur, comme je l'évoquais, mais un marché qui est en cours de construction et sur lesquels les enjeux du marché, qu'on évoquera tout à l'heure, les enjeux marketing notamment, qu'on évoquera là aussi tout à l'heure, sur lesquels les questions de stabilisation de l'offre, d'identification de la demande, même de structuration des filières de financement, etc., etc., ne sont pas complètement stabilisées. Et une des grandes difficultés de l'adressage de ce marché, c'est qu'on est dans un environnement qui, par nature, est un environnement instable, évolutif, et qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut être capable d'anticiper pour pouvoir s'y positionner. Donc, point central de notre réflexion, c'est cette question d'un marché en structuration. Un marché en structuration, pourquoi ? Parce qu'un marché qui se construit, comme je le dis, qui se construit, c'est-à-dire qui n'est pas encore complètement construit dans l'ensemble de ses composantes, et qui se construit notamment, et c'est une des particularités de ce marché par rapport à d'autres marchés traditionnels, à l'interface entre le secteur public et le secteur privé. On le sait, le contrat de filière Silver Economy est quelque chose qui est à la fois une initiative de la puissance publique, de l'État en l'occurrence, mais aussi une initiative qui a été relayée, accompagnée, déployée, anticipée par un certain nombre d'entreprises. Et donc, du coup, les grandes questions qui se posent autour de ce marché sont des questions d'arriver à gérer cet équilibre entre ces deux enjeux du public et du privé. Deuxième point, et j'ai commencé à l'aborder dans mon introduction, c'est un marché qui s'inscrit dans un environnement décisionnel qui est à la fois fait de certitudes, le vieillissement tendanciel des populations, un certain nombre de vérités, entre guillemets, statistiques qui sont vérifiées, notamment sur les cycles de revenus des personnes âgées qui évoluent dans le temps. Il y a eu un certain nombre d'analyses qui démontrent que cette réalité-là se trouve de manière, assez tendancielle dans à peu près tous les pays, mais aussi de nombreuses inconnues. Les inconnus qui portent à la fois sur la structuration de la demande, de quoi ont besoin aujourd'hui les personnes âgées, comment cette demande évolue dans le temps au fur et à mesure de l'avancement du vieillissement. Ces inconnus qui dépendent aussi de la structuration sociale et sociologique des différents pays. Alors ça peut être vrai au niveau des régions si on est en France, mais au niveau des pays, c'est une réalité aussi évidente. La problématique du vieillissement, comme je vous le disais, elle est tendancielle, mais elle n'est pas appréhendée de la même manière en France, en Asie, en Chine, en Afrique, etc. etc. Deuxième inconnu aussi, c'est sur la structuration de l'offre. On a une offre qui évolue, qui se structure, mais l'offre n'est pas complètement à maturité. Il y a un certain nombre de projets qui sont encore à inventer pour répondre aux besoins des populations. C'est aussi la question de l'offre, c'est aussi une question qui doit mettre en perspective et en relation à la fois des problématiques qui sont liées au développement de produits et aussi au développement des services. Et on sait qu'il y a autour de cette relation entre produits et services toute une zone et une sphère extrêmement importante d'innovation qui sont à venir, sur les modalités de financement, etc. etc. Il y a là, encore une fois, un environnement qui n'est pas stable, mais qui s'inscrit pourtant dans une donnée tendancielle. Troisième point, troisième particularité de la Silver Economy, c'est qu'on est sur un marché que je qualifierais un marché partagé. Alors, encore une fois, le terme a été cité par l'État. Quand il parle de contrat de filière, ça veut bien dire qu'en fait, ce n'est pas des contrats d'entreprise, ce n'est même pas des contrats de secteur, mais on est bien dans quelque chose qui intègre un certain nombre d'acteurs et qu'une des grandes questions va être de la coordination, de l'organisation de l'ensemble de cette filière et de la mise en relation de l'ensemble de ces acteurs, que ce soit à la fois des entreprises industrielles, le grand est un excellent exemple, des entreprises de services ou des organismes de services. Quand je dis entreprise, ce n'est pas d'ailleurs à prendre qu'au sens strict du terme entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas que des entreprises à but lucratif, ça peut être aussi des acteurs qui sont des acteurs à but non lucratif, bien évidemment, qui s'intègrent là-dedans, des opérateurs du médico-social, du social, les pouvoirs publics, etc. etc. Quatrième point qui nous semble un point extrêmement important aussi pour explorer ce marché, c'est le fait qu'on est sur des besoins qui sont globaux. Quand on développe une offre de résidence pour personnes âgées, on intègre un champ qui est un champ de l'ensemble du besoin de vie des personnes âgées. Et il ne suffit pas juste, évidemment, d'offrir des murs. Il y a tout un ensemble de services et d'accompagnements qui sont nécessaires par rapport à ça. Mais, évidemment, les réponses qui sont créées sont souvent des réponses spécifiques, c'est-à-dire chacun des acteurs apporte une partie de la réponse. Et donc ça renforce ce besoin, là, encore une fois, de coordination et de filière. Et donc, du coup, ça demande la nécessité de pouvoir agir en groupe, collectif. Et donc, vous imaginez bien, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des compétences managériales, la nécessité aussi d'avoir des porteurs de projets qui soient capables de coordonner des acteurs, qui sont des acteurs avec des problématiques différentes, avec des enjeux différents, avec des modèles économiques différents, etc., etc. Et puis, dernier point qui, de mon point de vue, est un des points peut-être les plus intéressants et aussi les plus compliqués pour la Silver Economy, c'est qu'on est sur un marché de personnes, des personnes âgées, qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce marché-là. Encore une fois, c'est une évidence peut-être dite comme ça, mais si vous développez une offre qui s'appellera offre pour seniors ou offre pour personnes âgées, vous n'aurez pas nécessairement beaucoup de personnes qui viendront vous voir. Et donc, du coup, derrière ça, il y a des questions de marketing, de représentation, de vocabulaire, de segmentation, enfin, l'ensemble de ces enjeux-là, qui est extrêmement important, de capacité à trouver les moyens de rencontrer, pour rencontrer ces personnes et les attirer vers son offre. Et donc, tout ça forme un ensemble, un périmètre de marché qui est relativement particulier et qui demande évidemment une réflexion et des compétences qui, de notre point de vue, sont des compétences spécifiques qu'on explorera tout à l'heure. Je vais laisser la parole donc à Madame Monminou qui va nous présenter pour le groupe Legrand un peu la réflexion et l'état d'avancement de leur réflexion, de leur démarche. Merci. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom.
C'est pas très simple mon nom, je vous l'accorde. Oui, alors pourquoi j'interviens, c'est pas pour donner des réponses toutes faites, c'est pour justement partager toutes les réflexions qui ont été évoquées, que nous avons en tant qu'entreprise et qu'on vit tous les jours quand on parle de silver economy, d'assistance à l'autonomie. Juste pour préciser effectivement ce qu'est le groupe Legrand, nous sommes des fabricants de systèmes électriques et numériques dans les bâtiments. Donc que ce soit des logements, des bureaux et des établissements, nous avons la vocation de fabriquer des solutions pour équiper tous ces bâtiments. Donc on nous reconnaît pour les interrupteurs très souvent, mais on fait plein d'autres choses par ailleurs. Pourquoi je mets une ambition de devenir l'acteur de référence de l'intelligence électrique ? L'intelligence électrique, c'est quand même assez vaste. Et finalement, depuis quelques années, un des axes stratégiques, on va dire les deux axes stratégiques du groupe Legrand, c'est l'assistance à l'autonomie. Et vous verrez pourquoi. Et puis le développement durable, effectivement, parce que c'est aussi un gros enjeu de nos sociétés. Alors, on n'est pas venu dans la silver economy, nous, Legrand, comme ça, depuis l'année dernière, parce qu'il y a une filiale. Ça fait presque une dizaine d'années, en fait, qu'on travaille dessus. Outre les solutions d'intelligence, enfin, dans les solutions d'intelligence électrique, on parle notamment de domotique. Donc, c'est vrai qu'on travaille sur la domotique depuis pas mal de temps. Il s'avère que depuis 2006, notre siège, donc, est à Limoges. À Limoges, dans le Limousin, c'est un beau secteur exemplaire de tout ce qui est désertification médicale, personnes isolées, personnes âgées. Donc en fait, par opportunité ou par circonstance, on est arrivé à la conclusion ou la réflexion, on va dire, avec certains institutionnels, type les conseils généraux de la Creuse notamment, que la domotique, c'était pas forcément que du confort et du luxe pour toutes les personnes, mais c'était aussi une nécessité pour des personnes fragiles qui doivent rester chez elles en toute sécurité et qui doivent avoir une adaptation du logement. Donc depuis 2006... je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les étapes de notre parcours, mais depuis 2006, on s'est dit, voilà, comment la domotique peut faire partie d'un système qui permette d'adapter le logement pour la personne fragile, personne handicapée, personne vieillissante, etc., qui ont besoin de sécurité. Donc depuis 2006, on a créé effectivement des partenariats avec le CNR Santé, Autonome Lab, c'est un living lab, c'est un petit laboratoire qui permet d'expérimenter certaines solutions. Et puis au fur et à mesure, depuis 2006, on essaie de faire des projets avec la Corrèze, avec la Creuse, souvent dans le Limousin, mais qui nous a appris beaucoup dans le monde de l'adaptation du logement. Il y a une date importante aussi, c'est 2011, c'est que avant, on n'était vraiment que dans la fabrication de produits. 2011, ça a été l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Intervox, qui fabrique des solutions de téléassistance. Et là, en fait, on s'est ouvert à un nouveau marché qui est fabriquer des solutions qui nécessitent des services. Et là, on recoupe justement tout ce milieu, ce monde de services qui sont indiscutables et inévitables dans le maintien à domicile, le soutien à domicile. Et depuis, effectivement, ce 2011... on s'est rendu compte qu'il y a l'adaptation du logement, mais il y a également tout un tas de solutions qui nécessitent des services et qui permettent d'apporter des solutions pour le soutien à domicile. Il s'avère que l'année dernière, cette fameuse filiale de la Silver Economy a émergé. Nous avons la fierté de dire que notre PDG Legrand, de Legrand, Gilles Schnepp, a accompagné Arnaud Montebourg et Michel Delaunay pour cette signature de cette filière. Il était vice-président. Ça ne s'est pas fait pour se faire plaisir, c'est qu'on y croit vraiment. On croit vraiment qu'il y a quelque chose à faire de très intéressant dans cette fameuse silver economy, assistance à l'autonomie. Donc on en est là, on a une filière qui est signée, un contrat de filière qui est signé. Maintenant, que faire? Et c'est là où je recoupe effectivement ce que M. Monard vous a dit, c'est OK, on a des solutions, mais quelle réflexion, qui intervient, quel service, quelle opportunité nous avons en termes d'entreprise pour positionner ce marché et structurer ce marché? Parce que finalement, quand on parle de filière de la silver economy, vous avez finalement des tonnes d'interactions et d'acteurs possibles. Alors, justement, là, c'est vraiment une cartographie très, 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 très globale sur le sujet de la silver economy. Moi, j'ai participé à des groupes de travail sur la silver economy, et ce qui m'a paru évident et assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, et je rejoins effectivement ce qui a été dit, c'est qu'on rencontre finalement du public, du privé, des grandes entreprises, des start-up, des opérateurs de services, des fabricants, un panel d'entreprises qui sont à vocation sociale, des associations. Après, des questionnements sur le financement, sur la demande, sur l'offre. Vous avez en fait la silver economy regroupe tout un panel de différents acteurs. Et finalement, cette structuration de la silver economy, c'est pas si simple. Parce que nous, en tant qu'entreprise, on ne va pas proposer des solutions toutes faites d'assistance à l'autonomie qui répondent à un besoin unique de la personne. Finalement, on a besoin d'interagir avec les opérateurs de services. On a besoin d'interagir avec les collectivités qui ont une stratégie aussi et un devoir de social. On est obligé aussi d'interagir auprès de services à la personne, de l'entourage, des pharmaciens. Donc en fait, on découvre que finalement, la silver economy, c'est tout un monde qui dépasse finalement le monde historique et les clients, le modèle économique historique de Legrand qui est on vend un produit à un distributeur qui le revend à qui veut. On n'est plus du tout dans ce schéma-là et on est obligé de revoir finalement notre modèle économique parce que ça nécessite de discuter avec différents acteurs. Alors, j'ai mis des réflexions et nous, ce que nous ressentons en termes d'entreprise et de structuration par rapport à cette fameuse silver economy, effectivement, c'est un marché c'est pas un marché nouveau, mais c'est une filière nouvelle qu'il faut structurer, qu'il faut consolider, il faut établir des partenariats, il faut trouver des canaux de distribution, parce que c'est vrai qu'en France, c'est difficile d'avoir des magasins pour seniors. Magasin pour personnes âgées, ça ne le fait pas. Donc, qui va distribuer des solutions d'assistance à l'autonomie?? Est-ce que c'est une distribution professionnelle? Est-ce que c'est une distribution plutôt grande surface de bricolage, grande surface autre spécialisée dans les matériels médicaux? Donc ça, c'est ces fameux canaux de distribution, c'est vraiment une problématique parce que ça nous fait réfléchir à un nouveau modèle économique. On a une offre. Il y a une demande, comment les faire rejoindre? Donc ça, c'est au niveau marketing, c'est une très belle interrogation et une très belle contribution qu'on doit apporter. Après, ce que je vous disais, c'est faire travailler différents types d'entreprises, des start-up, des PME, des grandes entreprises. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la silver economy, il y a des entreprises établies qui innovent, mais il y a aussi des start-up qui émergent. Et ça fait justement la promotion de toute l'innovation en France. Et on est vraiment en avance en France par rapport à moi, ce que j'ai vu depuis ces dernières années. On crée des partenariats. Oui, parce que finalement, la personne âgée, la personne fragile qui est chez elle, elle a besoin d'adaptation du logement peut-être, mais elle a aussi besoin qu'on soit chez elle pour lui procurer des soins. Elle a besoin qu'on lui apporte du lien social, parce que souvent, ce sont des personnes isolées. Donc, qui va lui apporter du lien social? Il faut qu'on lui apporte ses repas, il faut qu'on lui permette de lui faciliter la vie, sans pour autant aller forcément en maison de retraite, en établissement, parce que là, on va lui coordonner tous ses services et tous ses soins, mais elle a envie de rester chez elle. C'est 80% des personnes qui veulent rester chez elle, mais à condition que ce soit plus simple et possible. Donc là, effectivement, les fournisseurs de services et les fabricants de produits travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble à ce niveau-là. Les fournisseurs de services, c'est vraiment très, très global. Et le modèle de financement, ça, c'est aussi un gros, gros point clé qui paye, parce que finalement vous avez des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs du monde du social, des acteurs du monde de la santé. Ceux qui financent ne sont pas forcément ceux qui récupèrent, parce que le maintien à domicile, on sait bien que c'est un enjeu sociétal, mais c'est un enjeu aussi économique. Ça coûtera toujours moins cher d'avoir des gens chez soi qu'en établissement, mais qui paye. Donc effectivement, il y a du financement public, il y a du financement privé, mais dans toutes nos démarches et tous nos projets, il faut qu'on s'y colle et que le modèle économique, encore une fois, doit s'y prêter. Comme illustration, je trouve que c'est toujours un bon exemple. C'est un projet qu'on a mené et qu'on mène toujours aujourd'hui, qui s'appelle un projet ICAR qui est dans le Limousin. En fait, c'était un appel à projet e-santé numéro 2, donc, qui est sur 3-4 départements. Je peux en parler d'autant plus parce qu'avant, c'était vraiment un projet, une expérimentation. Alors, les expérimentations, on en fait beaucoup, 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 beaucoup. Simplement, les expérimentations, c'est bien parce qu'on expérimente des solutions innovantes, des solutions technologiques. On expérimente aussi des modèles, mais c'est vrai qu'il faut que ça aboutisse aussi à quelque chose de concret et d'économiquement viable. Et là, on est en phase de déploiement, donc on n'est plus dans l'expérimentation. Et l'expérimentation, ce n'est pas uniquement tester des produits, parce que finalement, ce qu'on met dans ce projet, ce sont des produits qu'on commercialise même de manière habituelle chez des distributeurs ou chez des clients habituels. Donc ce n'est pas des innovations qu'on va tester, mais c'est tout un modèle et un retour sur investissement, entre guillemets, qu'on met en œuvre. Donc là, dans ce projet, vous avez des institutionnels, vous avez de la sphère publique, vous avez la sphère privée, vous avez le CHU pour la santé, vous avez du social, vous avez de la téléassistance, des opérateurs de services, des petites structures, des petites start-up, comme des grosses entreprises. Vous voyez Orange ou Legrand, et puis vous avez effectivement Wheezy pour les carnets liaisons, vous avez des petites structures. Donc ça, c'est assez emblématique d'un projet qu'on a mené et qu'on mène toujours, mais qui nécessite à chaque fois de se remettre en cause, de repositionner notre modèle, comment on élabore notre modèle économique, qui finance. Alors on voit que finalement, les conseils généraux qui ont les finances pour le social et les ARS qui ont le financement pour la santé, quand ils discutent entre eux, quand c'est un projet partenarial, on arrive à trouver des modèles de financement acceptables pour qu'au final, parce que c'est quand même là l'enjeu et l'objectif, c'est que la personne fragile ait les moyens de se permettre de rester chez elle. Et puis ces projets, ce projet aussi, ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous montre aussi que le modèle managérial est à créer, bien évidemment, mais qu'il y a un réel bénéfice, parce qu'au final, c'est ça, la silver economy, c'est pas juste pour se faire plaisir, mais il y a un réel bénéfice, c'est qu'on se rend compte que oui, les technologies, oui, les services peuvent être vraiment à profit pour la personne âgée qui reste chez elle. On lui apporte du lien social, on lui apporte de la réassurance, on lui apporte des soins. Et en plus, on limite les risques de chute avec des solutions technologiques qui sont bien adaptées. On limite les hospitalisations, on limite l'isolement social. Donc ce projet aussi a un intérêt, c'est que finalement, on se rend compte qu'on a besoin aussi... OK, on fait les projets, mais il faut aussi en retirer les fruits et avoir les retours sur ces projets et savoir quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer et les atouts qu'on a et les axes de progrès. Donc l'axe de progrès, c'est vraiment une stratégie marketing et de modèle économique qui est absolument nécessaire. Et avant de passer la parole à Monsieur Monard, c'est pourquoi nous, Le Grand, on intervient ici. Déjà pour montrer que les entreprises au niveau privé, on est complètement investi là-dedans et on se rend compte des difficultés et des axes d'amélioration qu'il faut avoir. Et puis la possibilité de prendre en compte ces problématiques dès ces études, ce sont des nouveaux métiers, ce sont de nouvelles problématiques, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, on en aura besoin, parce que le vieillissement de la population, on n'y coupera pas, le maintien à domicile, on n'y coupera pas, les enjeux sociétaux et économiques, j'y reviens, sont vraiment primordiaux et vont durer et même... se renforcer au cours des années. Donc nous, au niveau de Le Grand, on est très investis dans tout ce qui est enseignement, parce que ces nouveaux métiers sont vraiment l'avenir de la société, en tout cas. Voilà, je vous passe la parole.
Merci bien. Merci, et merci pour ce merveilleux relais. Parce qu'en effet, c'est vrai que à Audencia qu'on a commencé à réfléchir un peu sur un programme de formation du type Executive MBA que j'évoquerai un petit peu plus tard autour de cette question-là. Première question qu'on s'est dit, si on n'est pas des spécialistes du vieillissement, ce n'est pas notre cœur de métier, on peut avoir des réflexions. Nous, ce qu'on sait faire dans une école comme Audencia, c'est mettre en relation des faits sociaux, des phénomènes sociaux, avec des problématiques managériales. Mais pour ça, on a besoin d'explorer à partir de terrain et on a besoin de rencontrer des entreprises. Et une des premières entreprises qui a répondu très très positivement à notre invitation, c'est justement Legrand. Et on s'est aperçu, et plus on avance et plus on réfléchit ensemble, et plus on s'aperçoit que nos réflexions sont tout à fait synchrones et tout à fait connectées. Alors du coup, comment répondre à l'ensemble de ces enjeux qui nous ont été présentés autour de la question à la fois du vieillissement et du maintien à domicile, mais qui sont des questions beaucoup plus globales, qui ne portent pas que exclusivement sur les enjeux du maintien à domicile, de manière générale sur tout ce fait vieillissement. Quels sont les enjeux pour un manager, quelqu'un qui veut développer une offre de produits et de services, qui veut développer une entreprise, qui veut développer une offre à l'intérieur d'une entreprise, etc., etc., pour adresser la Silver Economy? Plusieurs questions nous sont apparues quand même relativement centrales et plusieurs enjeux, ce que j'ai appelé des tensions managériales, parce qu'en effet, la problématique, c'est qu'on a un réseau de forces multiples qui génèrent des tensions en équilibre relativement complexes. Premier élément, c'est qu'on ne peut pas aborder le vieillissement en le segmentant. On ne peut pas aborder le vieillissement que sur l'aspect médical. On ne peut pas aborder le vieillissement que sur l'aspect social. On ne peut pas l'aborder que sur l'aspect produit, l'aspect service, etc. Il faut nécessairement avoir une multiplication des plans de compréhension de la réalité d'une personne, de la réalité sociologique, de la réalité démographique du vieillissement, à la fois à des niveaux multiples, la place, le collectif versus l'individuel et l'intégration de l'individu dans des enjeux collectifs beaucoup plus généraux, le niveau local, le niveau national, le niveau international. Il y a une interpénétration de plans et donc du coup il est nécessaire pour un manager qui veut s'orienter vers ce métier-là d'avoir une compréhension globale et de limiter les segmentations ou de multiplier en tout cas les angles d'attaque. Deuxième point, on l'a évoqué, j'ai déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure et vous l'avez évidemment bien renforcé, c'est qu'on est dans une structuration qui appelle à la fois des enjeux d'entreprise, du secteur privé, puisqu'on est sur un marché. En tout cas, il y a une réponse par le marché aux problématiques du vieillissement, mais qui ne peut pas se découper, qui ne peut pas se déconnecter des enjeux de la puissance publique, c'est-à-dire de la structuration des politiques publiques. Et donc, du coup, il est nécessaire d'avoir des personnes qui soient capables de comprendre à la fois les réalités des acteurs privés et les réalités des acteurs publics, les contingences des acteurs privés, les contingences des acteurs publics, et de faire communiquer ces deux éléments-là. Troisième point, qui est là aussi un point et vous avez là encore une fois extrêmement bien présenté, c'est la question de la construction des interfaces entre les différents acteurs, les différents opérateurs qui ont des réalités, des enjeux différents, des modèles économiques différents, des visions relativement différentes. Il y a une ingénierie de la mise en contact, entre guillemets, une ingénierie de la coordination qui est fondamentale dans cet environnement-là parce que la réponse ne peut pas être que individuelle et il semblerait difficile qu'un seul opérateur, une seule entreprise intègre en continuum total de l'offre de services et de services nécessaires à une seule personne âgée. Quatrième point, qui est souvent d'ailleurs un des points de plus grande complexité par rapport aux petites enquêtes, aux petites rencontres qu'on a pu avoir, c'est que tout le monde n'est pas naturellement séduit par la Silver Economy. À la fois à l'extérieur des entreprises, c'est-à-dire de la relation entre les entreprises et le marché elle-même. J'ai évoqué tout à l'heure la difficulté qu'il y avait à ce que les personnes, les clients eux-mêmes de ce secteur-là ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce secteur et dans cette offre-là, mais aussi au sein même des entreprises. Il est très difficile de mobiliser des personnes qui se font chefs de projet Silver Economy. Je vais caricaturer un petit peu mon propos, mais demain vous offrez, vous développez, vous lancez un appel à candidature au sein d'une entreprise pour avoir des chefs de projet qui sont porteurs d'une offre pour les jeunes, et vous, en parallèle vous lancez le même appel d'offres pour une offre de service à destination des personnes âgées, vous verrez assez rapidement comment les forces des uns et des autres se positionneront et quels seront les niveaux de réponse entre ces deux éléments-là. Donc du coup, il est nécessaire d'avoir des personnes qui soient capables de porter la bonne parole, entre guillemets, Silver Economy, au sein de son entreprise, au sein de son environnement, au sein de son groupe de cohérence, de manière générale. Et puis dernier point, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un marché qui n'est pas stabilisé, ni sur son offre de services, son offre de production, ni sur sa demande, ni sur ses modèles financiers, eh bien, il faut avoir aussi des capacités et la nécessité de démontrer sa viabilité et donc aussi une réflexion prospective. Être capable de dire, à partir du moment, voilà où on en est aujourd'hui, quel est le point d'arrivée, le point d'atteinte et comment je vais pouvoir stabiliser et développer tout ça sur les enjeux économiques, bien évidemment, la rentabilité, puisqu'on est quand même beaucoup dans le monde des entreprises, mais pas exclusivement. Et donc, du coup, je sais pas où c'est lisible, il y a 4 grands pôles de compétences qui nous sont apparus fondamentaux. C'est autour de ces grands pôles de compétences qu'on a souhaité développer notre programme de formation, que je vous présenterai tout à l'heure, qui, encore une fois, est plus présenté non pas pour apporter une réponse absolue, parce qu'on ne l'a pas, mais plus pour le lever un certain nombre de questions. Et je souhaite d'ailleurs que, dans la suite de cette présentation, on puisse avoir des jeux d'échange avec vous pour essayer d'améliorer, faire évoluer ou expliquer un peu ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Premier pôle de compétence, c'est d'avoir, alors ce que je qualifiais de spécialiste du fait vieillissement, c'est-à-dire des personnes qui soient capables de développer une offre globale, une vision globale autour de cette question du vieillissement, sans segmenter les problématiques, et surtout être capable de générer des interactions entre des problèmes qui viennent du médical, du social, de l'ingénierie, de l'aménagement du territoire, etc., etc. Et trouver des réponses autour de nœuds de problèmes. Deuxième point, et je pense avoir déjà insisté là-dessus, mais ça vaut toujours la peine de rappeler les points centraux, c'est d'avoir des personnes qui soient des traducteurs public-privé. On sait, et c'est aussi une évidence en la matière, que le langage managérial du public n'est pas le même que le langage managérial du privé, que la réalité du public n'est pas la même que la réalité du privé. J'aurais même tendance à dire, j'ai fait une partie de ma carrière à la fois dans le public et dans le privé, donc je sais de quoi je parle, qu'il y a une certaine forme de méfiance entre ces deux secteurs-là. Alors, le mot est un peu fort, méfiance, j'en conviens, mais malgré tout, c'est une réalité qu'on retrouve. Et donc, il faut des gens qui soient capables de faire la traduction du champ de l'un dans le champ de l'autre, c'est-à-dire faire comprendre les contingences du public dans l'entreprise privée et les contingences du privé dans l'entreprise publique. Troisième point, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'avoir une ingénierie organisationnelle, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, les structures organisationnelles, des structures qui sont par nature des structures coopératives, c'est-à-dire qui intègrent un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas tous soumis à la même autorité, c'est-à-dire on ne va pas faire travailler que des gens d'une même entreprise, mais des acteurs, des opérateurs de multiples environnements et de multiples entreprises, ben il va falloir avoir cette ingénierie, cette mise en relation, cette ingénierie de l'organisation, et chaque système organisationnel répondra à des problèmes complètement différents. Donc il va falloir créer et trouver et développer ces compétences-là. Et puis, dernier point, ce sont des compétences, on va dire, plus de savoir-être, comportemental, mais avoir des personnes qui soient à la fois des innovateurs, puisque les réponses ne sont pas encore apportées, il va falloir développer des réponses nouvelles en grande partie, tout en moins, des visionnaires, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de présenter une vision. Quand je dis visionnaire, hein, je ne parle pas de gourou, de choses comme ça, mais quelqu'un qui soit capable de porter une vision de ce que peut être la réalité de ce qu'ils veulent exprimer, et donc du coup qui puisse se présenter comme des avocats de la cause vieillissement au sein de leur environnement, au sein de leur structure. Et ces dimensions, je dirais, de communication sont extrêmement importantes. Et donc du coup, une multitude d'enjeux, et autour de ça, on a essayé de réfléchir. Là, ce que je vous présente, évidemment, c'est le point où nous en sommes aujourd'hui dans la structuration d'un programme. Et l'idée, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt de le mettre en pâture à votre réflexion et de pouvoir en échanger avec vous. Donc, un programme complet autour de ces éléments-là, sur 6 grands modules ou 6 grands pôles de compétences qui nous apparaissent importants. Mais un programme, comme vous l'avez vu, qui est cyclique, parce qu'il y a quand même un processus pédagogique pour développer ses compétences, un processus d'apprentissage pour développer ses compétences. Et ce processus d'apprentissage commence par un socle commun, un socle de base, c'est d'être capable de développer une vision globale de la réalité des personnes âgées, de comprendre quelles sont les spécificités, les enjeux du marché, le terme est un peu fort d'ailleurs, du fait vieillissement, de la problématique des seniors. Comprendre, avoir une vision globale qui soit à la fois une vision collective, macroéconomique, démographique, sociologique globale, mais aussi une vision individuelle ethnographique, j'aurais tendance à dire, si je veux utiliser un mot de chercheur, c'est-à-dire au niveau de la personne, qui soit capable de comprendre les réalités, comment les vivent les personnes âgées. Donc cette vision globale nous semble en point central dans le dispositif. Et donc le premier bloc de compétences, évidemment, sera autour de cette question-là, sur comprendre déjà ce que c'est que le vieillissement, comment on parle, quelles sont les grandes approches théoriques du vieillissement, et comprendre, avoir la vision sur l'ensemble des éléments autour de la question de la santé, parce que c'est souvent ce secteur-là qui a été porteur de la réflexion autour du vieillissement, mais élargir évidemment, et l'élargir à la fois sur une vision de l'actualité, mais aussi une vision du futur, en intégrant des particularités internationales, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait tendanciel le vieillissement au niveau international, mais la réalité du vieillissement n'est pas la même dans tous les pays, parce qu'il y a évidemment un substrat sociologique, social, qui est extrêmement important dans cette question-là. Deuxième point, et pour revenir plus dans le champ du management, il y a une question autour du marketing qui est extrêmement importante. Question de marketing qui touche à différentes dimensions. Comment créer une segmentation, comme l'utilisent les spécialistes du marketing, de la personne âgée. La réalité des personnes âgées n'est pas la même quand on a juste 60 ans, quand on a 99 ans, voire plus. Il faut comprendre un peu les grandes tendances. Alors l'idée n'est pas évidemment de mettre les gens dans des boîtes et des étiquettes trop fermées, mais quelles sont les grandes tendances de la réalité de l'évolution d'un parcours de vieillissement qui d'ailleurs peut commencer bien avant cette question-là. J'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui est directeur du marketing dans une caisse de retraite, et lui, une de ses grandes problématiques, c'est de parler du vieillissement à des personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans la strate des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il faut commencer à sensibiliser des personnes qui ont 30, 40 ans sur leur retraite. Et donc, du coup, il y a aussi un discours marketing qui est un peu particulier dans cet environnement-là. C'est aussi pour la question du marketing, c'est trouver le bon vocabulaire, les bons mots, en effet. Un bon exemple, c'est que quand l'État a voulu créer une filière autour de cette question-là, il n'a pas parlé de la filière vieillissement, il n'a pas parlé de la filière senior, parce que tous ces mots sont piégés, tous ces mots sont colorés de certaines réalités, et donc du coup on a été obligé d'utiliser l'État et aller vers un vocabulaire qui est un vocabulaire anglo-saxon, ce qui est quand même étonnant pour l'État, et il parle de « silver economy ». Donc il y a des enjeux là aussi de communication, de marketing qui sont extrêmement, extrêmement importants. Et l'idée c'est aussi de travailler là, non pas pour apporter des réponses fermées et définitives, mais plutôt de travailler pour explorer différentes réalités, différentes situations. Troisième point et troisième bloc de compétences, c'est toute la question de l'innovation et de la chaîne de la valeur. Parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des enjeux d'innovation qui sont fondamentaux dans cet environnement-là. Parce qu'on n'a pas des réponses qui sont des réponses en matière d'offres de biens et de services qui sont complètement figées dans le temps. D'ailleurs, toute la réflexion autour du design est extrêmement mobilisée autour de cette question-là. Mais l'innovation, c'est aussi à un moment donné être capable de faire cohabiter les problématiques de services avec les problématiques de production. Et donc, du coup, c'est aussi être capable d'innover dans la structuration organisationnelle qui permette de faire cohabiter l'offre de services, l'offre de produits, de la mettre en perspective, de l'intégrer dès l'amont des chaînes de production de ces différents systèmes. Mais ça demande aussi pour les managers d'être capable de faire cohabiter ces deux systèmes-là. Et on le sait que ce n'est pas ce qui est le plus évident, toujours, de faire comprendre à des entreprises, on va dire, dont la culture dominante est la culture industrielle, la culture de la production, les enjeux et les besoins du service, et les intégrer dès l'amont, comme il n'est pas toujours évident non plus pour des entreprises qui sont plus orientées vers le service, d'intégrer les besoins, les compétences, la nécessité d'une réflexion sur la production et la maturation des chaînes et des systèmes de production. Donc cet enjeu de l'innovation et de l'innovation à la fois sur son versant service, produit, le mélange des deux, mais aussi sur les dimensions qui sont liées à faire vivre l'innovation au sein d'une organisation, sont des points qui nous semblent extrêmement importants. Quatrième point, je l'ai déjà évoqué et je réinsisterai là-dessus, et comme je vous le disais à titre personnel, c'est quelque chose qui m'interpelle d'autant plus que moi j'ai fait une partie de ma carrière autour de ces enjeux-là, c'est le passage du public au privé. On ne peut pas, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue collectif tel qu'on s'est posé la question au sein d'Audencia, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas produire une réponse, qu'on soit dans une entreprise ou qu'on soit dans un secteur public, autour de la question du vieillissement, en sous-estimant, en méconnaissant complètement l'autre versant. On va attendre que le train soit passé, si vous permettez. Il est là-bas maintenant. en méconnaissant complètement l'autre secteur. Et donc, du coup, il faut avoir la capacité à comprendre quels sont les enjeux de chacun des secteurs, du public vers le privé, du privé vers le public, quels sont les points d'accord et de désaccord qu'il peut y avoir, et comment trouver un équilibre entre ces différentes dimensions, ces différentes réalités-là, notamment à la fois autour des questions organisationnelles, mais aussi autour des questions économiques. Il y a des vieux mythes sur les financements publics. Certaines personnes, j'ai pu l'entendre dans certains échanges, qui pensent que c'est un marché, le marché des personnes âgées, qui est un marché qui est par nature solvable, parce que financé au titre de l'APA ou au titre d'un certain nombre de financements. On sait que la réalité est tout autre. Et donc, il est nécessaire, évidemment, de bien comprendre ces différentes dimensions-là. Cinquième et sixième point, un point qui, là aussi, nous est apparu extrêmement important, c'est la question du pilotage de la performance. Parce qu'on est sur des modèles, comme je vous l'ai dit, qui sont évolutifs, puisque l'offre n'est pas stabilisée, qu'il va être nécessaire de rendre performant aux différents cycles de son évolution. Et cette question de la performance, de sa mesure, de sa représentation, etc., etc., ne peut pas s'arrêter du fait de la composition publique et privée du secteur d'activité, ne peut pas s'arrêter à une simple représentation qui soit exclusivement financière d'un côté ou exclusivement non financière de l'autre côté. Il va falloir créer des outils, des approches de la performance, notamment parce qu'on s'inscrit dans cette logique de partenariat public-privé, des approches de la performance qui répondent aux contingences des deux secteurs d'activité. Et puis enfin, dernier point, c'est un point qui touche là de manière générale beaucoup de MBA, mais sur lequel on insistera particulièrement dans celui-là, c'est le développement des compétences personnelles, managériales, des savoir-être, etc., etc. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, être spécialiste de la silver economy, être chef de projet silver economy, ça demandera d'avoir une vision, d'avoir des capacités d'innovation, etc. Mais ça va demander aussi d'avoir des capacités de conviction extrêmement fortes. Parce que tout le monde n'est pas encore attiré naturellement par ce secteur-là, dans tout type d'organisation de manière générale. Il y a encore des résistances, une méconnaissance, etc. Et il faudra des personnes qui soient un peu les fers de lance, les porteurs de la bonne parole dans cet environnement-là. Et donc il faudra des compétences particulières, des savoir-être, allez, on va le qualifier en gros mots, de charisme particulier, pour pouvoir porter cette bonne parole au sein des entreprises et la faire accepter par tous. Quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, qui sont porteurs de la silver economy, comment le marché a été développé ou l'offre a été développée au sein de ces entreprises, comment le projet a été conduit, il y a toujours à l'origine une initiative personnelle. Classiquement, ce n'est pas évidemment le seul modèle, mais c'est un modèle qu'on retrouve assez classiquement, c'est le chef d'entreprise qui a des parents vieillissants, Alzheimer par exemple, et qui de ce fait est sensibilisé et qui est parti de cette réflexion individuelle et personnelle pour aller vers un peu plus loin dans cette réflexion-là. Mais il y a toujours la nécessité d'avoir un porteur de projet, et c'est ce porteur de projet qui est capable de développer et de faire vivre le système. Donc voilà en quelques mots, je vous propose maintenant d'en échanger. Et évidemment, si vous voulez plus de précisions à la fois sur ces réflexions et sur le programme qu'on développe, je vous rappelle que notre stand à Audencia est au petit box 56 dans cette allée. Et peut-être présenter où vous êtes positionné le grand. Voilà, donc trois quarts d'heure, mais à vous la parole maintenant pour une petite vingtaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, éventuellement, on pourrait avoir des réponses. Pas sûr, puisque les réponses ne sont pas absolues. Mais la première promotion s'ouvrira l'année prochaine. Donc, l'exécutif MBA Audencia existe, lui, depuis maintenant une dizaine d'années, mais c'était un exécutif MBA généraliste. On a souhaité, aujourd'hui, Audencia, je ne l'ai pas présenté, mais c'est une école qui est basée à Nantes, hein, c'est ex-école supérieure de commerce Nantes-Atlantique, mais on se développe à Paris, et c'est dans le cadre de ce développement qu'on va créer ce MBA Silver Economy, donc on est basé dans la tour Montparnasse, pour ne pas la citer, et donc la nouvelle promotion qui sera porteuse de cette spécialité commencera à partir de l'année prochaine, sans programme qui s'étale sur 18 mois, un programme en temps partiel, donc évidemment, qui peut être organisé en parallèle d'une activité professionnelle. Et d'ailleurs, on a une personne dans cette salle qui suit le MBA actuellement, et tout en ayant son activité professionnelle en parallèle. Oui. Oui, il y a plusieurs initiatives. À ma connaissance, hein, je n'ai évidemment pas fait un tour exhaustif de toutes les initiatives, mais il y a plusieurs initiatives qui existent aujourd'hui pour cette relation, si j'ai bien compris votre question, entre le vieillissement et la maison. C'est comment faire que les gens puissent vivre plus longtemps. Donc, une initiative qui a été évoquée tout à l'heure par Legrand, lequel Legrand est chef de projet et principal animateur. Il y a un certain nombre aussi d'initiatives qui sont apparues dans des structures associatives qui réfléchissent à cette question-là. Il y a un certain nombre de start-up aussi qui ont réfléchi. Alors, je n'ai plus tous les noms, mais je sais qu'il y a une start-up qui aujourd'hui d'ailleurs est incubée dans l'incubateur Audencia qui travaille sur cette question-là avec des logements pilotes justement pour pouvoir animer cette réflexion et faire des tests un peu de logique du type Living Lab, entre guillemets, dans des maisons. Je sais qu'à Angers, j'ai plus le nom exact de la structure qui est porteuse de ça, mais à Angers, il y a une... donc une structure qui offre justement des logements types pour pouvoir les investir à travers ces démarches-là. Et puis, donc c'est quelque chose qui se développe, et en effet, le fer de lance, entre guillemets, c'est souvent ce modèle du type Living Lab, c'est-à-dire offrir un espace, un lieu pour lequel se rencontrent, dans lequel se rencontrent plusieurs acteurs qui puissent réfléchir et proposer des offres collaboratives et coopératives autour d'une problématique donnée.
Je vais juste rajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on le rencontre de plus en plus. Il y a le logement, il y a les établissements de santé, mais il y a aussi maintenant toute une émergence de logements intermédiaires qui commencent à se créer, et ça, c'est encore tout à fait nouveau, donc il faut toujours être en veille sur ces aspects. La maison de retraite à domicile ou l'EHPAD à domicile, enfin, c'est des choses, les résidences seniors, les foyers logements, ça commence à être vraiment très émergent. Donc il y a le domicile, mais il y a aussi ces logements intermédiaires qui sont vraiment des sources d'innovation fortes en termes de services et de structuration et de produits. Donc là aussi, il faut toujours être en veille et proactif sur ce type de solution. Donc voilà, il y a des offres qui évoluent, mais il y a aussi même au niveau du marché des structures et des établissements et des nouveaux types de logements qui émergent grâce ou à cause de ce vieillissement de la population. Donc on y travaille activement. Ouais.
Prolonger, il y a aussi des expériences ou des réflexions aujourd'hui sur des systèmes partagés entre la vie chez soi, le maintien à domicile et des espaces justement plus collectifs avec des entrées-sorties en fonction des périodes de vie, en fonction d'une même journée. Enfin, voilà, il y a plein de réflexions autour de cette question-là, d'ailleurs qui se mènent au niveau international. Je sais que pour avoir visité ce qui se passe aux États-Unis, il y a énormément de réflexions sur ce thème-là aussi, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays. Alors, aujourd'hui, là encore une fois, sans avoir fait une étude de marché exhaustive, ce qu'on a pu repérer comme formation sur la silver economy, il y a des formations spécifiques silver economy sur différentes problématiques. Et là, je vous renvoie par exemple à Silver Valley qui a développé ou qui a une vision autour de cette question-là. En France, il y a un master MBA, entre guillemets, qui est assez proche de ce qu'on propose, qui est à Sciences Po Paris, mais qui a, pour l'instant, à ce que j'en connais, plus une orientation médico-sociale, entre guillemets. Je vais caricaturer, et mon propos, faut le prendre évidemment avec des pincettes, leur orientation est plus de former des gens qui peuvent être des responsables de services et de maisons de retraite auprès du vieillissement. Nous, notre MBA est plus orienté plutôt vers le monde de l'entreprise, à la fois avec une vision généraliste, mais aussi plus pour développer des chargés de mission, des cadres dédiés au développement d'une offre pour les personnes âgées. J'ai entendu dire, je crois qu'à HEC, ils avaient quelque chose qui aussi s'intégrait dans cette logique-là, mais qui n'a peut-être pas l'envergure ou la globalité ou la complétude dans MBA. Je sais que des pays comme le Canada ont un certain nombre d'initiatives. Les universités canadiennes ont pas mal travaillé justement sur ces réflexions-là et sur le développement d'offres spécifiques qui intègrent à la fois les dimensions techniques, mais des dimensions aussi managériales autour de la question du vieillissement et de la silver economy. Et il y en a évidemment certainement d'autres que je n'ai pas repérées. Puisque...
Ce qui est certain, c'est qu'en France, on est quand même un des premiers. Enfin, on a certainement une longueur d'avance par rapport à tout ce qui est à l'international pour avoir une ouverture vers l'international. En Chine, ils commencent à s'y intéresser très, très, oui, très fortement. Mais en France, on a vraiment une longueur d'avance. C'est pour ça qu'il faut vraiment la maintenir et la consolider, parce qu'on est un petit peu les leviers sur ce thème.
Oui, clairement, c'est vrai. Et notamment avec, en France, cette réflexion qui a émergé très tôt d'une, d'une réflexion bien comprise et bien structurée entre acteurs publics et acteurs privés. Alors je reviens, c'est un peu quelque chose de récurrent dans mon discours, mais qui me semble quelque chose d'assez, d'assez pertinent et d'assez innovant en France, en tout cas, et qui n'est pas présent comme tel dans tous les pays. Voilà, vous évoquez le cas de la Chine. Là, entre guillemets, c'est la société civile qui va être le vecteur de cette dimension-là, parce qu'avec la politique de l'enfant unique, il se retrouve dans une situation qui va très vite devenir, si ce n'est catastrophique, mais assez dangereuse, en tout cas pour le pays. Bien, mais si vous n'avez plus de questions, à titre collectif, évidemment, on peut rester à votre disposition si vous avez des questions plus individuelles. Merci d'être venu nous avoir écoutés. Évidemment, on est à votre service pour approfondir.